Disparition. Peut-on parler de disparition quand on évoque Léonard de Vinci, l'auteur du tableau le plus célèbre au monde, la fameuse Joconde, son sourire et son sfumato, quand le mot génie a un sens.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Pascal Paradou.
Il y a 500 ans, le 2 mai 1519, dans le château d'Amboise, Léonard de Vinci rendait son dernier souffle à l'âge de 67 ans, âge vénérable pour l'époque. Et si, en cette année anniversaire, un demi-millénaire plus tard, l'on se plongeait dans les textes, les inventions et les images dont on dit qu'elles ont un vocabulaire du grand Léonard. Bonjour Vincent de Lieuvin.
Bonjour.
Vous êtes conservateur en chef au musée du Louvre, spécialiste de la peinture italienne, et c'est à vous que revient la charge et l'honneur d'organiser la très grande rétrospective qui va avoir lieu à la fin de l'année, donc au musée du Louvre. Exposition que l'on ne pourra voir que sur réservation, autant dire que vous prévoyez du monde ?
Un sujet comme Léonard de Vinci, bien évidemment, c'est un artiste si célèbre, et puis on a la chance au musée du Louvre de conserver son grand chef-d'œuvre, la Joconde, donc les attentes sont énormes vis-à-vis de notre exposition, donc effectivement, il risque d'y avoir beaucoup de monde, et c'est justement pour le confort de la visite qu'on a décidé de mettre en place cette réservation obligatoire pour tous les publics.
Mais vous savez que je déteste prévoir 4 mois à l'avance ce que je vais faire.
Vous détesterez, mais une fois que vous serez dedans, vous apprécierez davantage, parce que justement vous serez plus tranquille et les conditions de visite seront plus agréables. Donc moi aussi, je ne suis pas un grand fan des visites, des réservations obligatoires, mais c'est un mal nécessaire.
Tous les tableaux de Léonard seront au Louvre pour l'occasion ?
Alors, tous les tableaux de Léonard, non, parce qu'un certain nombre de tableaux de Léonard, en fait, ne peuvent pas voyager. La grande scène, la magnifique scène qu'il a peint sur le mur d'un réfectoire à Milan, elle ne peut pas être déplacée. Puis il y a de grands tableaux qui sont vraiment, ça serait dangereux de les déplacer. Mais les tableaux du Louvre et une bonne sélection d'autres tableaux, de dessins préparatoires, enfin, un certain nombre d'œuvres seront réunis dans cette grande exposition.
Quand on dit tous les tableaux, en fait, il y en a très peu. Combien y en a-t-il de Léonard ? On parlera des mots, mais parlons des chiffres.
Alors, avec Léonard de Vinci, il y a une bataille entre les spécialistes, on pourrait dire. En tout cas, on est avec moins de 20 tableaux. Il y a plusieurs façons de compter, parce que, par exemple, l'un des premiers tableaux de Léonard de Vinci, c'est en fait une intervention dans un tableau de son maître, Verrocchio, et il a peint un personnage. Alors, comment on compte ce tableau-là ? Un demi, un quart ? Vous voyez, c'est pas évident. Enfin, on pourrait dire qu'il a peint entre 17 et 18 tableaux, ce qui est très peu pour quelqu'un qui a quand même vécu assez longuement. 67 ans, c'est considérable pour l'époque.
Alors l'idée aujourd'hui n'est pas forcément, Vincent de Lieuvin, de tout dire sur Léonard, qui d'ailleurs n'est pas simplement un groupe de construction et de concession d'autoroute, voilà, ça c'est dit, mais de trouver et de comprendre les mots qui caractérisent le peintre, un peu comme dans votre livre Léonard de Vinci en 15 questions. Alors si je vous dis « génie », est-ce que c'est un mot qui lui convient, sachant que je suis allé dans le dictionnaire historique de la langue française et le mot génie est contemporain de Léonard ?
Génie, bien évidemment, pour Léonard de Vinci. On dit souvent, on utilise trop ce mot de génie. Mais effectivement, chez Léonard, il y a cette capacité d'invention permanente, de ne pas se contenter des connaissances de l'époque, de toujours vouloir chercher une vérité nouvelle, de ne jamais se reposer sur ses lauriers, de remettre en cause les connaissances et d'inventer des choses nouvelles. Donc ça, le génie, il est là, dans cette tension permanente. Et puis, c'est surtout dans l'accomplissement. Léonard de Vinci est parvenu, ses contemporains, à renouveler les connaissances scientifiques, mais aussi la pratique artistique. Les tableaux de Léonard de Vinci, il y en a très peu, mais chacun de ces tableaux est une œuvre absolument, un chef-d'œuvre absolument accompli et merveilleux, incomparable avec ses contemporains.
La première fois que le mot génie est utilisé dans la langue française, c'est 1532 chez Rabelais. Vous dites dans votre livre « génie du non finito », de l'inachèvement.
L'inachèvement, c'est l'une des recherches de Léonard. L'inachèvement, c'est d'abord lié à une sorte de pratique, un perfectionniste. Léonard va donc peindre tout au long de sa vie très peu, mais chaque tableau est une œuvre sur laquelle il ne cesse de revenir, il cherche à perfectionner la forme, il cherche aussi à régulièrement transformer un peu le sujet pour exprimer, révéler quelque chose de différent. Donc c'est vraiment l'inachèvement est lié à cette expérimentation permanente. Comme Léonard ne cesse de perfectionner son œuvre, d'une certaine façon, ça ne s'arrête jamais, ça ne se termine jamais. Et en faisant cela, en ne cessant de travailler sur son œuvre, il découvre la potentialité, le caractère absolument extraordinaire d'une matière qui n'est pas d'une composition qui n'est pas achevée. C'est-à-dire toute cette matière en vibration, ces effets qui ne sont pas complètement terminés, achevés, et qui sont forts d'une potentialité expressive inouïe. Hein, ça, c'est quelque chose de très important chez Léonard de Vinci.
Alors, né à Vinci en Toscane, il a 20 ans à Florence, il travaille à Milan, il peint la Seine, et il se met au service des Médicis, s'installe à Rome, puis vient en France dans les bagages de François Ier, il passe 3 ans et meurt dans le Val-de-Loire, à Amboise. Est-ce qu'il incarne, autre mot important, la Renaissance ? Sachant que là aussi, Renaissance, c'est un terme qui peut évoluer, qui renvoie à la fois à une période historique et aussi à un mouvement artistique.
C'est toujours compliqué ces mots, ces expressions effectivement, qui l'expression de Renaissance surtout, qui finalement recueille tellement de choses, effectivement une période historique, un retour aussi, la Renaissance est un retour vers l'Antiquité grecque et romaine, donc effectivement c'est un terme qui est peut-être un peu trop général aujourd'hui, mais néanmoins, avec Léonard, il veut dire quelque chose. Alors Léonard n'est pas un génie isolé, ce n'est pas non plus la seule incarnation de ce qu'on pourrait appeler la Renaissance. C'est plutôt quelqu'un qui vient accomplir les recherches de la Renaissance. La Renaissance, au cœur des recherches de la Renaissance, il y a vraiment cette volonté, effectivement, de revenir vers l'Antiquité grecque et romaine, vers les connaissances, vers les sciences développées à ce moment-là dans l'Antiquité, et aussi de replacer l'homme un petit peu au cœur des recherches. Et c'est vrai que lorsqu'on observe Léonard, on le voit vraiment je dirais, dans la continuité d'un certain nombre de chercheurs, de scientifiques. Par exemple, on pourrait prendre le domaine de l'anatomie. C'est quelqu'un qui s'est passionné pour la compréhension du corps humain, qui a disséqué tout au long de sa vie et qui est parvenu vers la fin de sa vie à livrer des observations extrêmement fines dans le domaine de l'anatomie, notamment sur le cœur humain. C'est quelque chose d'admirable qui, d'ailleurs, après sa mort, n'a été redécouvert que bien plus tard. Donc il y a vraiment chez Léonard, effectivement, cette incarnation de nouvelles recherches scientifiques, de nouvelles attentes vis-à-vis de ce qu'est l'homme et des capacités de l'homme.
Presque autant du côté des sciences que de la peinture.
Les choses sont tout à fait liées, en fait, chez Léonard. Léonard de Vinci est un jeune homme qui n'a pas eu de formation humaniste. C'est pas quelqu'un qui a fait de grandes études de latin, de grec, et ça lui a manqué toute sa vie, parce que sans latin et grec, vous n'avez pas accès aux grands textes de l'Antiquité, Platon, Aristote. C'est difficile de comprendre la façon dont les grands intellectuels pensent. Mais Léonard, justement, lui, s'est tourné vers la peinture. Très jeune, il a voulu devenir un très grand peintre, et il s'est rendu compte que pour devenir un très grand peintre, il fallait avoir une compréhension totale de la nature, de ce qui était représenté dans la peinture. Et il s'est lancé, pour devenir le plus grand des peintres, il s'est lancé dans une enquête systématique, passionnée de la nature. Et on le voit, les années passant, s'intéresser à l'hydraulique, le mouvement de l'eau, l'histoire de la Terre, cette lente et violente lutte des éléments, de la Terre, de l'eau, cette déformation de la Terre par l'eau, s'intéresser à l'homme, l'anatomie, je l'ai dit, mais aussi les expressions humaines. Il a fait de la caricature, il s'est intéressé à la physiognomonie. C'est quelqu'un qui a vraiment, il s'est intéressé à la botanique. Il a eu des centres d'intérêt considérables parce que, en fait, il avait besoin de comprendre la nature, comprendre pour pouvoir ensuite la restituer dans sa peinture.
Vincent de Lieuvin, nous allons dans quelques minutes nous balader dans les galeries du Louvre pour contempler Mona Lisa, mais un produit dérivé, si j'ose dire, une Mona Lisa rock'n'roll version Higelin.
Je ne connais qu'une fille qui se nomme Mona Lisa Claxon. Elle vit dans une île entourée de crocodiles et de fantômes. Noire comme l'ébène, souveraine, elle joue du trombone. Personne ne m'appelle aussi quand le téléphone sonne. Je sais que c'est Mona Lisa Claxon. Allô, ça va ? Oh, Mona Lisa Claxon. Comme ça, Mona Lisa Claxon. Et toi? Oh, Mona Mona Lisa klaxonne, je n'en peux plus. Danse, danse, remue pour moi au téléphone. Les soirs où Mona Lisa klaxonne a le cafard, elle s'enferme dans la cuisine avec son grand léopard. Tandis qu'elle entre en transe tout en lui mordillant les chines. De la jungle en démence monte cette incantation divine, divine. Mona Lisa klaxonne, joue du trombone. Mona Lisa klaxonne, Mona Lisa klaxon, trombone. Mona Lisa klaxon, je n'en peux plus, je suis fou, fou, fou de toi, de la danse, de tes pas. Oh Mona Lisa klaxon, oh Mona Lisa klaxon, oh Mona Lisa klaxon, oh Mona Lisa klaxon, oh Mona Lisa klaxon.
Mona Lisa klaxon de Jacques. C'est fou comme ce tableau de la Joconde a inspiré des détournements ou des jeux de mots dont le plus célèbre peut-être Vincent de Lieuvin et celui de Marcel Duchamp qui pose des moustaches sur le visage de la Joconde et rajoute une légende L-H-O-O-Q à chacun de faire la phrase qui convient. Mais il y a aussi des pages et des pages d'admiration et dans votre livre d'ailleurs vous citez Théophile Gautier qui en fait un sphinx de la beauté ou Georges Sand qui s'extasie sur ce ton de clair de lune. C'est vraiment une source d'inspiration, Mona Lisa.
En fait, toutes les générations ont porté un regard différent, mais toujours admiratif, en regardant, en observant la Joconde. Léonard a vraiment inventé un portrait qui parle, qui communique tellement fortement avec le spectateur que chacun se sent immédiatement concerné. Il y a un dialogue qui s'instaure entre le personnage et le spectateur. Il y a une intimité qui se crée. De ce fait, on voit chaque génération inventer une sorte de dialogue avec la Joconde. Et c'est vrai que parmi les plus belles pages, ce sont celles des grands hommes de lettres de la deuxième moitié du 19e siècle qui ont vraiment écrit de très beaux textes et qui ont fait de la Joconde une sorte de personnage très, très mystérieux, très poétique et qui compte beaucoup aujourd'hui dans le regard qu'on lui porte. Parce que là où chez Théophile Gautier ou Georges Sand, on était face à une véritable écriture littéraire, eux étaient conscients d'écrire des pages mais qui étaient déconnectées des intentions de Léonard de Vinci. Cette idée d'un personnage mystérieux est rentrée complètement dans notre culture et aujourd'hui beaucoup d'historiens, on devrait dire peut-être de pseudo-historiens, imaginent que la Joconde recèle un mystère. Il y a un mystère caché et il faudrait observer très particulièrement, très finement le tableau pour pouvoir retrouver ce mystère. Cette idée de mystère, en fait, elle a été développée par quelqu'un comme Théophile Gautier, justement. Mais lui, c'était plutôt le mystère de l'expression, ce mystère d'un dialogue qui s'instaure à travers les siècles entre un portrait et un spectateur.
Oui, elle fascine même Beyoncé, qui a tourné son dernier clip au Louvre avec la Joconde en comparaison.
C'est ça qui est extraordinaire, c'est que la Joconde, on peut la mettre dans n'importe quelle situation, elle a toujours une expression extrêmement pertinente, elle a toujours une place, comme elle a un sourire, qu'elle nous regarde, qu'elle est tournée vers nous, même derrière les épaules de Beyoncé, elle nous dit quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir ou d'imaginer. C'est ça qui est extraordinaire avec ce tableau.
Et vous avez vu Beyoncé ? Je parle pas de la Joconde. Hein.
Alors, je l'ai vue par hasard, pas pendant qu'elle faisait son tournage, parce qu'effectivement, très peu de gens étaient au courant, mais je l'ai rencontrée par hasard, parce que par ailleurs, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le musée du Louvre, et donc elle est venue plusieurs fois au musée. Donc un soir, en sortant de mon bureau, par le plus grand des hasards, je suis tombé sur elle.
Waouh ! Alors aujourd'hui, la Joconde est le symbole du Louvre, incontestablement. Alors, en quels termes les conférenciers ou les guides parlent de ce tableau ? Anna Kerotret a rencontré Geneviève Attal-Ashton.
Alors, il me semble que pour parler de la Joconde, aux visiteurs qui sont souvent dans une très très grande attente puisque c'est vraisemblablement le tableau le plus célèbre du monde, il faut employer un vocabulaire qui est en général le vocabulaire qu'on emploie quand on fait une analyse picturale. Donc ça peut susciter un vocabulaire un peu spécifique aux techniques des artistes et là en l'occurrence de Léonard qui utilise parfois une technique un peu personnelle utilisant donc des couches de glacis, des couches de vernis très légèrement colorées pour procurer un effet de dissolution des contours, ce qu'on appelle la technique du sfumato, qui donne au fond un effet d'illusion de relief en trois dimensions, qui procure une sensation un peu accentuée de clair-obscur, avec des contrastes assez sensibles et diffus entre les ombres et les lumières. Maintenant, évidemment, on peut utiliser un vocabulaire un petit peu moins spécialisé, puisqu'il s'agit d'aborder une icône, une image que tout le monde, le grand public, connaît très bien, même si ce n'est pas un familier des musées ou de l'art ou de la peinture en général. Donc il s'agit de faire entrer les gens dans le monde d'un artiste, dans le monde de la Renaissance, dans le monde de la Toscane, de Florence à la Renaissance, autour d'une œuvre mondialement connue, mais tout en l'initiant un petit peu à l'art, à l'histoire de l'art et aux techniques picturales.
Mona Lisa is magnificent.
The Mona Lisa is lovely and mesmerizing.
Mona Lisa painting is one of the most beautiful painting available in the world. It's marvelous and people come across the globe to see it.
Madame Attal Ashton, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que signifie le terme de Joconde et d'où il vient?
Alors, je pense qu'il y a peut-être deux explications envisageables. La première, c'est le nom du modèle présumé, qui serait une certaine Mona Lisa del Giocondo. Mona Lisa signifiant Madonna Lisa, Madame Lisa, qui s'appelait de son nom de jeune fille Lisa Gherardini et qui avait épousé un notable florentin du nom de Francesco del Giocondo. Donc la Gioconda, la Joconde, c'est comme si on disait la Durand, la Martin. On la qualifierait finalement de son nom de famille. L'autre éventualité, puisqu'on se trouve qu'elle ressemble beaucoup à d'autres modèles peints par Léonard, comme si on retrouvait toujours un petit peu le même type physique qui est là de manière récurrente dans son œuvre, c'est qu'on l'aurait surnommée la Gioconda parce que c'est un qualificatif qui en italien signifie joyeux, heureux. Pourquoi l'aurait-on qualifiée de cette manière-là? À cause de ce léger sourire qu'elle esquisse, mais qui est un petit peu ambigu. Est-ce qu'elle est vraiment joyeuse, heureuse? Est-elle au fond un peu narquoise, un peu moqueuse ou mélancolique? Et c'est ce mystère finalement autour de son expression qui renforce aussi probablement sa célébrité.
En Chine, Mona Lisa peut être une image.
Alors, que dit le conservateur en chef de ces explications, Vincent de Lieuvin?
Eh bien, je dirais que nos guides sont extrêmement bien formés. Voilà ce que je dirais. Parce que c'est effectivement tout ce que a dit ma collègue. Il y a cette tension dans ce tableau. Vraisemblablement, au début, c'est un portrait. Et puis, sans doute, il y a une sorte d'idéalisation. Et c'est pour ça que ce qu'elle disait était très juste. Il y a des traits qu'on retrouve dans les autres œuvres de Léonard. Ce long nez qu'on retrouve dans la Sainte Anne, dans le Saint Jean-Baptiste. Il y a sans doute une idéalisation des traits, et puis ce portrait n'est pas que le simple souvenir d'une femme qui a vécu il y a 500 ans, il dit aussi bien des choses sur l'expression humaine, il y a un caractère universel dans ce portrait.
Sfumato, c'est un mot très léonardien, si je me permets cet adjectif.
Alors c'est un mot qui est apparu dans la littérature artistique un peu après Léonard. Léonard utilise quand même le mot de fumée, de fumo. Ça vient vraiment du mot de fumée. Alors fumée, c'est peut-être un peu exagéré. Il faut imaginer une sorte de légère brume. Léonard veut dire qu'effectivement, lorsqu'on regarde les choses dans la nature, on ne voit pas des lignes. Tout est fait en revanche de subtiles transitions de l'ombre à la lumière. On voit les choses de façon très douce. Et c'est ça qu'il veut restituer dans sa peinture. Il veut restituer la vérité de la vie. Et ça, c'est vraiment la recherche principale de Léonard, restituer la vie à travers cet effet de sfumato.
Est-ce qu'il y a d'autres termes techniques, liés au vocabulaire pictural qui le concernent?
Alors, sfumato, on va dire que c'est le mot le plus poétique, parce qu'effectivement, bon, il est très évocateur. Après, on pourrait avoir des mots plus techniques. Effectivement, ma collègue a parlé de ce qu'on appelle un glacis. Donc, les glacis, c'est comme ça que peignait Léonard de Vinci. En fait, c'est une technique plutôt développée par les peintres flamands dans le nord de l'Europe. C'est une peinture, les pigments sont liés avec de l'huile, et un glacis, c'est une couche essentiellement chargée d'huile, et il y a très peu de pigment, ça permet vraiment de poser sur la surface picturale une très fine couche de peinture, très transparente, et c'est grâce à cela que Léonard va construire ces dégradés extrêmement subtils qui vont de l'ombre vers la lumière. Tout est extrêmement doux, et regardez, mais admirez les commissures des lèvres de la Joconde, les côtés des narines, mais c'est fait avec pratiquement rien, on ne voit pas de coup de pinceau, c'est vraiment le fruit d'un magicien, c'est éblouissant.
Et il n'y a donc pas de couleur spécifique qui caractériserait les tableaux de Léonard, celui-ci ou les autres.
Alors, Léonard est vraiment quelqu'un de très traditionnel pour les pigments. Il utilise les pigments qu'utilisent tous ses contemporains, notamment pour les carnations. Donc, c'est du blanc de plomb, du vermillon pour un peu de rouge. Léonard en utilise très peu. Ce qu'il veut, lui, c'est vraiment travailler très subtilement les dégradés d'ombre et lumière. Donc, il utilise peu de couleurs. Ce qu'il cherche vraiment à perfectionner, ce sont les transitions ombre-lumière.
Alors, ce qu'il faut préciser sur la Joconde, c'est que Léonard gardera toute sa vie ce tableau avec lui. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il est au Louvre et non pas en Italie. Il y a des batailles pas tout à fait homériques, mais pas loin entre les deux États pour savoir à qui appartient la Joconde. Tentative de description, on va mettre des mots. Une femme assise, dos au paysage, pas un arbre, pas une maison, pas d'église, un pont, c'est un peu surnaturel. Et Daniel Arras, qui fut l'un des grands historiens d'art en France, décédé il y a une quinzaine d'années, avait consacré un livre à Léonard et forcément il s'est penché sur la Joconde, il l'a regardé, il a vu le sourire, mais aussi le paysage.
Ce sourire, en fait, c'est ce qui lie profondément la figure au paysage de l'arrière-plan. J'ai déjà évoqué ce paysage chaotique de rochers, terre, ou un paysage préhumain, etc. Eh bien, le paysage, si vous le regardez bien, vous verrez qu'il est incohérent. C'est-à-dire que dans la partie droite du point de vue du spectateur, vous avez les montagnes très hautes, et vous avez tout en haut de la montagne un lac plat, hein, comme un miroir, qui donne une ligne d'horizon très très élevée. Et dans la partie gauche, pour le spectateur, de l'autre côté de la figure, au contraire, le paysage est beaucoup plus bas. Et il n'y a pas moyen de concevoir le passage entre la partie droite très élevée et la partie gauche. Il y a un hiatus. Bien, ce hiatus, en fait, il est recouvert, caché, transformé par la figure elle-même et par le sourire de la Joconde. La bouche se relève très légèrement du côté où le paysage est le plus haut, et donc la transition impossible entre les deux parties du paysage, elle se fait dans la figure, par le sourire de la figure. Je crois qu'à ce moment-là, il faut avoir lu les textes de Léonard, se rappeler qu'il était un grand admirateur d'Ovid, des métamorphoses d'Ovid, et que pour Léonard, comme pour Ovid, la beauté est éphémère. La Joconde, c'est la grâce. C'est pas seulement la beauté, c'est la grâce d'un sourire. Mais un sourire, c'est éphémère, ça ne dure qu'un instant. Et c'est pas un éclat de rire, c'est un sourire éphémère. Et ce sourire, c'est ce sourire de la grâce qui fait l'union du chaos du paysage qui est derrière. C'est-à-dire que du chaos, on passe à la grâce, et de la grâce, on repassera au chaos. C'est donc une méditation sur, je dirais, une double temporalité. Nous sommes au cœur du problème du portrait. Le portrait est inévitablement une méditation sur le temps.
Vincent de Lieuvin, que dites-vous de cette interprétation de Daniel Arras?
Alors, elle est très belle et très fine. Alors, c'est vrai que depuis la mort de Daniel Arras, malheureusement, il n'a pas eu le temps de voir certaines des nouvelles découvertes qui ont été faites sur le tableau grâce à l'imagerie scientifique. On dispose d'équipements qui permettent vraiment de mieux comprendre les couches picturales. Vous savez que la Joconde, il faut se méfier de ce tableau parce qu'il est recouvert de vernis oxydés anciens qui jaunissent et qui cachent un petit peu les formes. Et ce qu'on a découvert grâce à l'imagerie scientifique, c'est que, en réalité, le plan d'eau à droite de la Joconde se poursuit dans la zone gauche. Donc le paysage, en fait, est plus cohérent que ce que l'on peut voir au premier coup d'œil. Mais ça, Daniel Arras ne pouvait pas le voir, c'était impossible, c'est grâce à l'imagerie scientifique qu'on le découvre. Néanmoins,
ça ne change rien pour le spectateur qui voit ces deux plans de paysage et qui ne comprend pas forcément comment ils sont reliés, qui
tout
pense
à fait
que finalement c'est la figure humaine qui relie.
c'est vrai qu'il y a même peut-être sans doute une volonté de Léonard, il a caché malgré tout, il a rendu les choses beaucoup plus ambiguës. Il aurait pu continuer la ligne du lac d'une façon très claire, non, il a cherché à la rendre effectivement plus confuse et a créé un paysage beaucoup plus déstructuré que ce qu'il aurait pu concevoir. Donc effectivement, le portrait est là pour, en quelque sorte, apporter une structure par rapport à ce paysage, en effet, très, très complexe dans sa construction.
En tout cas, le portrait des portraits, c'est pas faux.
Évidemment, et les mots d'amour de Daniel Arras pour la Joconde, on est nombreux à les connaître en écrit de différents, mais tout aussi forts.
Vincent de Lieuvin, à la mort de Léonard, donc il y a 500 ans très exactement, il laisse donc cette vingtaine de tableaux, à peine, de sculptures, point, alors qu'il est donné comme sculpteur, mais surtout des feuilles, énormément de feuilles, un peu plus de 4000, avec des dessins de machines les plus invraisemblables les unes que les autres, et c'est là où Léonard se révèle un génie aussi parce qu'il était un ingénieur militaire et pas simplement un peintre de portraits.
Effectivement, alors le peintre cache aussi toute une partie d'activité considérable. Léonard, tout au long de sa vie, a voulu être quelqu'un au talent universel. Il a jamais cessé d'imaginer des machines pour améliorer en fait la vie des humains. Ça peut être des machines de construction. Il était passionné par les problèmes d'engrenage, donc de machines qui pouvaient construire un canal. Et puis les machines, il était aussi fasciné par la question du vol de l'être humain. Donc ça, il a aussi imaginé une sorte de préfiguration de l'hélicoptère, des machines qui auraient permis de voler. Alors évidemment, si on est très dur avec Léonard, on se rend compte que ces machines ne peuvent pas fonctionner parce qu'effectivement, il manque un moteur. Mais néanmoins, il y a quand même un certain nombre d'idées où on voit que Léonard préfigure des choses qui serviront au 19e et au 20e siècle dans la conception de ces machines à moteur.
Alors, il préfigure l'hélicoptère, mais il n'invente pas le nom, il l'appelle ornithoptère. C'est assez joli. Est-ce qu'il donne des noms comme ça à chacune de ces machines?
Il en imagine certains, pas toujours à vrai dire, parce qu'en fait, on le voit à travers ses cahiers, ça c'est vraiment le patrimoine merveilleux de Léonard, on a ses 4000 feuilles dans lesquelles il griffonne toutes sortes d'idées, donc tout n'est pas toujours très clair et très abouti. C'est vraiment foisonnant, hein. C'est vraiment, il faut imaginer quelqu'un qui ne cesse, c'est un graphomane, il ne cesse de tracer des choses sur ses feuilles de papier.
Pour lui d'ailleurs, il ne les publie pas, elles seront rassemblées par un de ses disciples.
Tout à fait, pour lui, parce que ça ne s'arrête jamais, tout comme ses tableaux ne sont jamais achevés, sa pensée aussi scientifique ne se termine pas. S'il avait vécu 10 ans de plus, il n'aurait sans doute jamais rien publié ni terminé de tableau.
Vous arrivez à lire Léonard de Vinci, Vincent de Lieuvin?
Alors il faut du temps quand même.
Sacrée écriture, hein.
Oui, parce qu'effectivement, Léonard est gaucher. Il n'a pas eu de formation humaniste, on ne l'a pas forcé à écrire comme nous écrivons de la gauche vers la droite. Et donc lui a écrit naturellement dans l'autre sens et à l'envers. Donc effectivement, lorsqu'on regarde les écrits de Léonard, on se dit, mais on ne comprend rien, qu'est-ce qu'il a écrit comme ça? C'est impossible à lire. En réalité, avec un peu de pratique, alors anciennement on utilisait un miroir, vous mettez un miroir sur le côté et tout devient écrit à l'endroit. Aujourd'hui avec l'informatique c'est encore plus simple. Avec un peu de pratique en réalité, on se rend compte que Léonard écrit assez distinctement. Il vous faudra quand même une ou deux semaines de pratique, voire plus, quand même. Mais ça n'est pas si difficile. Vraiment.
Mais pourquoi il écrit à l'envers? C'est l'usage à l'époque?
Pas du tout.
C'est codé?
Non, ça n'est pas codé non plus, parce qu'en réalité, comme je vous le dis, avec un miroir, on pouvait lire extrêmement facilement. C'est vraiment la façon très rapide et très immédiate pour un gaucher d'écrire. Vous demanderez à tout gaucher, à qui on n'a pas forcé d'écrire dans le bon sens, mais c'est l'évidence de d'écrire dans ce sens-là. C'est plus rapide, et puis votre main n'essuie pas l'encre fraîche au fur et à mesure de l'écriture.
Donc ça, il n'y a pas de mystère?
Désolé, aucun mystère. Au contraire, une grande limpidité. Léonard, c'est quelqu'un qui a toujours voulu faire connaître sa pensée. Il avait autour de lui un grand nombre d'assistants. C'est quelqu'un qui était très fier de ce qu'il faisait.
Limpidité, c'est un mot pour le caractériser finalement?
Bien évidemment, mais Léonard, il est fasciné par son image aussi. C'est quelqu'un qui a cultivé son image. Jeune homme, c'était un bel homme, très fort, qui s'habillait apparemment la dernière mode. Et puis plus vieux, quand il s'est dit, bon, cette fois, le charme physique, peut-être qu'il est un peu passé, il s'est transformé en quelque sorte en un philosophe. Il se laisse pousser la barbe, les cheveux, il devient végétarien. Il prend comme modèle les grands scientifiques de l'Antiquité, et notamment Pythagore. C'est vraiment ses modèles, c'est le philosophe de l'Antiquité qui est parmi ses contemporains au 15e siècle, 15e, 16e siècle.
Donc, autre image de Vinci, qu'on n'imagine pas forcément en dandy devenant philosophe, voire people, si j'ose.
C'était un grand homme de cour qui a toujours aimé vivre en société et avoir beaucoup de gens autour de lui.
Merci beaucoup, Vincent de Lieuvin. Votre livre, Léonard de Vinci en 15 questions, est édité chez Azan et nous attendons avec impatience l'ouverture de l'exposition Léonard de Vinci au Louvre. Donc, ce sera à partir du 24 octobre jusqu'au 24 février. Il faut réserver à partir du mois de juin. Vous nous en faites faire des choses. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, reportage Anna Kerotré, programmation Véronique Durand, Olivier Roux à la réalisation. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur le site rfi.fr. Cliquez sur le bouton podcast ou sur la page Facebook de l'émission. À demain.